que l'être. Si donc la signification de qu'est-ce que c'est que l'être n'est pas la même que ceci est, vous comprenez que je ne peux pas, en interrogeant, revenir à la réalité, parce que ce n'est pas la même signification. Je n'ai donc plus qu'une seule issue, c'est, quand je pose qu'est-ce que c'est que l'être, revenir à mon intelligence interrogeante, qui a découvert, qui est source de cette interrogation, et qui peut seule résoudre cette interrogation. Autrement dit, si vous voulez, hein, je pose le problème autrement, pour que vous voyez bien, parce que ça me semble capital, et il me semble que c'est là où, de fait, les trains déraillent. N'est-ce pas ? Et donc, nous déraillons facilement. Quand je pose l'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être ? Il y a deux sources à cette interrogation. Une première source que je peux admettre, le jugement d'existence. Et la seconde source, l'intelligence. Évident que ce n'est pas la réalité qui se pose la question qu'est-ce que c'est que l'être. C'est mon intelligence qui pose l'interrogation qu'est-ce que c'est que l'être. Et donc, le point de vue de la subjectivité transcendantale de l'intelligence, hein, de Kant, la subjectivité transcendantale de Kant, c'est parce que l'intelligence est capable de décoller. Quand elle est, ceci est, elle est sur le terrain d'atterrissage. Et quand on l'interroge, elle se déloigne. Alors, si la signification, qu'est-ce que c'est que l'être, n'est pas la même que dans le jugement d'existence, ceci est, vous comprenez très bien que je ne peux pas revenir à la réalité existante pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'être. Je dois donc, à ce moment-là, réfléchir sur cette source immanente qui est l'intelligence interrogeante, et c'est l'intelligence interrogeante qui est source de l'interrogation qui doit me donner la solution qu'est-ce que c'est que l'être. Et alors à ce moment-là, la signification de l'être se prend à partir de l'intelligence interrogeante, donc à partir de l'intelligence elle-même, et non plus à partir de la réalité. Et je me coupe du réel pour chercher dans l'esprit, dans mon intelligence interrogeante, la signification de l'être. Et c'est bien ça l'idéalisme. L'idéalisme met le primat d'une intelligence interrogeante sur la réalité. Et je me replie sur moi-même, c'est en ce sens-là qu'il y a une asphyxie, je me replie sur moi-même pour découvrir dans mon intelligence interrogeante la signification de l'être. Puisque je vois que l'être est né, cette interrogation est née de mon intelligence qui interroge. Vous voyez là, on voit le partage. Bien, je ne peux pas accepter cette coupure. Pourquoi ? Parce que je dis, c'est ça qu'il faut bien saisir, je dis que la signification de ceci est, donc la signification du est, et la signification de l'être est la même, selon deux modalités tout à fait différentes, mais elle est la même. Elle est la même dans ce qu'elle a de plus profond. Mais elle a deux modalités différentes. Alors, essayons de comprendre ça, parce que ça, c'est très important. Je reprends pour que vous voyez bien. Je dis que, et ça, je peux l'affirmer, je dois maintenant le montrer. Et en montrant ça, je montre que une métaphysique est une métaphysique qui part de l'expérience et non pas uniquement de l'intelligence. Pour Heidegger, l'expérience étant le point de vue de l'étant ne peut jamais faire découvrir l'être. Et donc, pour découvrir l'être qui est la négation de tous les étants, pour découvrir l'être, il faudra donc réfléchir sur mon intelligence interrogeante et découvrir à l'intérieur même de mon intelligence la signification de l'être. Oui. C'est à l'intérieur de mon intelligence. Et alors, à ce moment-là, la métaphysique n'est plus la métaphysique du réel, c'est la métaphysique de l'intelligence. Et donc, c'est l'esprit qui est premier. Et l'être est relatif à l'esprit. Ce qu'on dira ordinairement. Et là, on a raison de dire ça. C'est que dans le propre de l'idéalisme, l'être est relatif à l'esprit. Dans le propre du réalisme, l'esprit est relatif à l'être. Relatif à ce qui est. Et ceci provient de cela. C'est très curieux, ça provient de là. Ça provient de ce partage des eaux qui se fait, là. Alors, vous comprenez la conséquence, hein? Si l'être est relatif à l'esprit, à mon esprit, je ne peux jamais plus rejoindre Dieu. Puisque l'être apparaît dans mon esprit, mais cet être qui apparaît dans mon esprit, ce n'est pas du tout l'être qui est la signature du Créateur. C'est mon esprit qui le découvre. C'est mon esprit qui lui donne sa signification. Et donc, ce n'est pas Dieu qui lui donne sa signification. Tandis que si au contraire, je reviens à l'expérience et que je dis que la signification de l'être dans l'interrogation est la même que par rapport à la réalité que j'expérimente, cette réalité, elle ne vient pas de moi, bien de Dieu. Et donc c'est bien l'être qui provient du Créateur que je saisis dans ma métaphysique, et donc ça me permettra de remonter jusqu'à Dieu. Ça, c'est extrinsèque que j'ai dit ça, ça, c'est une dernière confirmation. Alors, je voudrais maintenant, nous y reviendrons là-dessus, parce que ça me semble capital, ce premier moment. Je voudrais simplement maintenant montrer que lorsque nous passons du jugement d'existence à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», nous passons du mode concret, nous l'avons déjà vu, du mode concret au mode abstrait. Je vais m'expliquer. L'intelligence a deux registres de connaissance. L'intelligence peut connaître la réalité concrète et l'intelligence peut, à partir de la réalité concrète, abstraire ce qu'elle atteint et le donner sous un mode abstrait. Je prends l'exemple blanc-blancheur, parce que ça, c'est très facile à comprendre. Le blanc du mur. Et à partir du blanc du mur, vous abstrayez la blancheur. Ça, c'est très curieux, cette nécessité de l'intelligence d'abstraire la blancheur du blanc du mur. Vous n'avez pas l'expérience de la blancheur, mais vous avez l'expérience du blanc du mur. Vous n'avez jamais vu la blancheur. Si vous commencez à me dire que vous avez vu la blancheur, je dirais, tiens, ça va plus. Alors à ce moment-là, vous ne voyez plus que la blancheur. La blancheur, vous ne l'avez pas vue. C'est une vue de l'esprit. Vous n'avez pas senti la blancheur. Vous n'avez jamais senti la blancheur. C'est l'esprit, c'est votre intelligence qui dit blancheur. Ce n'est pas votre œil qui dit blancheur. Votre œil dit le blanc du mur. Le blanc du visage. Oh, comme tient un visage blanc ce matin. Cadavérique. Le blanc du drap. C'est impressionnant, du reste, quand vous multipliez tous les blancs. Et puis, votre intelligence est capable de dépasser l'expérience et de parler de la blancheur. Qu'est-ce que c'est que la blancheur? C'est ce par quoi le blanc est blanc. C'est ce que vous dites, hein, quand vous voulez définir ce que c'est que la blancheur. C'est ce par quoi le blanc est blanc. Donc, pour progresser dans la signification de la blancheur, vous devez revenir au blanc que vous expérimentez. Vous n'expérimentez pas la blancheur. Ça n'a l'air de rien, ça, mais c'est capital. Hein? Vous n'expérimentez jamais le mode abstrait. Et quand vous prétendez expérimenter le mode abstrait, vous tombez dans la cérébralisation, qui est la maladie la plus terrible. Vous tombez dans la cérébralisation. Il y a quelque chose qui va vous toucher. On tombe vite dans la cérébralisation, c'est ça. Ça peut se faire assez facilement, ça. On commence à ne regarder ce qui est abstrait, uniquement. On s'intéresse qu'à l'abstrait. L'abstrait a cet immense avantage, c'est que vous ne le rencontrez jamais. Vous le portez en vous. Donc il ne peut jamais être un ennemi. Tandis qu'au contraire, le blanc il vous oblige, le blanc du mur, il vous oblige de considérer que le blanc du mur, il mesure votre expérience, tandis que la blancheur ne mesure pas votre expérience. Et donc vous pouvez la dominer. On aime toujours bien de dominer. Vous voyez, c'est en ce sens-là que l'idéalisme implique un certain orgueil de domination. Tandis qu'au contraire, le réalisme reconnaît l'humilité de quelque chose qui est avant moi. Le blanc du mur, c'est très important. Vous voyez, il y a un petit examen de conscience au point de vue philosophique là-dessus qui est très très intéressant. Parce que quand vous êtes dans l'humilité de la recherche de la vérité, vous êtes bien obligé de reconnaître que le blanc du mur, eh bien, c'est quelque chose qui mesure votre intelligence. Par le point de vue de l'expérience, par le point de vue de la sensation. Tandis que la blancheur, c'est vous qui l'avez faite. C'est vous qui avez réalisé cette abstraction. Eh bien, il y a quelque chose d'analogue, hein, comprenez bien. Il y a quelque chose d'analogue au niveau de l'être. Entre ceci et, qu'est-ce que c'est que l'être? Pourquoi? Parce que ceci est, vous êtes en présence de la forme du présent. C'est le présent, ceci est. Et qu'est-ce que c'est que l'être? C'est la forme de l'infinitif. Évidemment, je ne peux pas rester uniquement au niveau de la grammaire. Hein? Mais la grammaire est un signe. C'est un signe, un petit signe. L'être, l'expression de l'être, c'est l'infinitif. Et l'infinitif d'un verbe peut s'abstraire du temps. Peut donc prendre une forme abstraite. Qu'est-ce que c'est que l'être? C'est une forme abstraite. Comparativement à ceci est, qui est une forme concrète, vous voyez? Le blanc du mur est toujours lié au mur, et bien ceci est toujours lié au ceci. Et le ceci dans le cas, c'est le mur. Et ceci est lié au ceci. Tandis qu'au contraire, quand je dis qu'est-ce que c'est que l'être, l'être est isolé. Il est pris pour lui-même. Il n'est plus relatif à autre chose. Il est pris dans tout son absolu. Je formalise. C'est ça la formalisation. Donc, je formalise être. Et je dis qu'est-ce que c'est que l'être. C'est très curieux ça. C'est très très curieux. Et c'est très intéressant à voir ça. C'est très intéressant à voir ce pouvoir extraordinaire de l'intelligence de formaliser. Mais quand l'intelligence formalise, elle perd le contact direct. Elle n'a plus le contact direct. Elle n'a plus l'expérience. Et donc, elle ne progresse plus. Je dois formaliser, mais je dois tout le temps revenir à la réalité. Et quand je formalise pour formaliser sans venir à la réalité, à ce moment-là, je m'évade. Et c'est l'évasion du réel. Et je tombe dans l'idéalisme. Et ceci est particulièrement fort quand il s'agit de la métaphysique. Parce que quand il s'agit de la blancheur, on travaille bien, idéaliser la blancheur, ça n'a pas tellement d'importance. Vous retomberez sur vos pattes. Ça, c'est bien évident. Parce que vous allez demander, je voudrais acheter 1 kilo de blancheur. 1 kilo de blanche. Non, vous voulez acheter 1 kilo de couleur blanche. C'est pas la blancheur. Hein. La blancheur, ça n'existe que dans votre tête. Pas autrement. Alors ça, vous faites assez vite l'expérience, parce que je vais faire un repas de blancheur. Ben, vous verrez ce que ça fera, un repas de blancheur. Tandis que vous pouvez faire des aliments qui sont blancs, une mayonnaise plus ou moins blanche, plus ou moins jaune, et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez très bien, ça c'est les couleurs. Pour avoir la craie blanche, très très bien ça, mais ce n'est pas la blancheur. Quand il s'agit d'une qualité comme la blancheur, c'est assez facile, parce que la réalité vous rappelle tout le temps. Quand il s'agit de l'être, hein, quand il s'agit de l'être, quand il s'agit de la bonté, on est tellement bien avec la bonté. Tandis que quand je suis avec des réalités bonnes, elles sont toujours un peu limitées. Tandis que l'avantage de la bonté, c'est qu'elle n'est pas limitée. Donc je suis tranquille. Avec qu'est-ce que c'est que l'être? L'être, c'est merveilleux, l'être. Vous voyez, l'intuition de l'être. Alors je reste dans l'être. Mais l'être, ça n'existe pas. sauf dans votre pensée. Qu'est-ce qui existe? C'est ceci est. C'est ceci est, et c'est tout. Mais j'ai beaucoup plus de peine à revenir à la réalité là. Alors, ce qui est très très important, vous voyez, c'est de comprendre que la signification de blanc et la signification de la blancheur est la même, sous deux modes différents de connaître. La signification de la blancheur, c'est bien évident, c'est la même que celle de blanc, puisque la blancheur, c'est ce par quoi le blanc est blanc. Donc c'est la même signification, il n'y a pas deux significations différentes. Eh bien, c'est la même chose pour l'être. Il n'y a pas deux significations différentes entre ceci et qu'est-ce que c'est que l'être. Eh bien, quand vous comprenez ça, tout Heidegger dégringole. C'est très curieux. Quand vous comprenez ça, tout Heidegger dégringole. Parce que Heidegger oublie que ceci est a la même signification que l'être. C'est très gros, hein. Et c'est quand même très intéressant de voir ça. Parce que Heidegger, qui a fait beaucoup de bruit, hein, et que tout le monde considère comme un grand maître, de voir que, de fait, il s'est mis le doigt dans l'œil, il a confondu blancheur et blanc. Ou plus exactement, il a opposé, c'est pas ça, il a opposé blanc et blancheur. Et il a dit que la blancheur devait être regardée pour elle-même, et non pas par rapport au mur blanc. Il a considéré que l'être devait être regardé pour lui-même, et non pas par rapport à ce qui est. Et non pas par rapport à la réalité qui existe. Il a considéré que la réalité qui existe, c'était les étangs, et qu'il fallait découvrir l'être pour lui-même, en opposition avec les étangs. Vous voyez la dialectique d'opposition et la continuité du ceci, qu'est-ce que c'est que l'être. Oui, le dépassement de la démarche dialectique pour redécouvrir quelque chose de vital, qui est le passage de l'expérience à l'interrogation. Qui est le passage de l'expérience où l'intelligence est liée au sens, à ce dépassement de l'intelligence par rapport au sens, quand l'intelligence se sépare des sens, l'intelligence est capable de se séparer des sens. Mais quand l'intelligence se sépare des sens, elle abstrait, elle a un mode abstrait. Elle ne progresse plus, elle formalise. La formalisation est très importante, c'est très très important. Il faut bien que l'intelligence se sépare des sens de temps en temps pour avoir son autonomie. L'intelligence se sépare des sens, elle est capable de se séparer des sens, et elle est capable de poser la question « qu'est-ce que c'est que l'être ?» Quand l'intelligence pose l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», l'intelligence se dresse sur elle-même, je ne dis pas sur ses pieds, mais se dresse sur elle-même, l'intelligence prend son indépendance par rapport au sens, et l'intelligence interroge sur ce qu'elle a atteint profondément dans l'expérience. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Mais c'est la même signification, dans quelle continuité ? Si c'est la même signification, je peux, en interrogeant qu'est-ce que c'est que l'être, revenir à l'expérience ceci est. Tandis que ce n'était pas la même signification, je ne pourrais pas. Alors vous réfléchirez là-dessus. C'est très important, vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais je crois que c'est là où nous saisissons tout de suite la naissance de toutes les idéologies. La naissance de toutes les idéologies, c'est d'opposer le mode concret et le mode abstrait. Alors c'est ça, c'est une simplicité élémentaire. Hein. Mais c'est toujours comme ça, c'est toujours dans des simplicités élémentaires que se font les plus grosses bêtises. On a oublié que ce n'était pas la même chose. Pour Heidegger, c'est très très net. Or Heidegger, je crois, représente, vous voyez, d'une certaine manière, une dernière idéologie de la philosophie première. C'est une démarche dialectique, donc une idéologie. Ce n'est plus l'expérience qui commande tout, mais c'est ma conception, ou plus exactement, c'est ce que l'intelligence interroge dans le point de vue qu'est-ce que c'est que l'être. Alors, d'une certaine manière, Heidegger est très en opposition à toutes les idéologies, je suis tout à fait d'accord. Il est très en opposition, mais fondamentalement, il retombe dedans. On arrête. Thank you.
d'abord la question des termes. Je comprends très bien qu'il faut arriver à bien saisir ce que représente cette activité intellectuelle la plus profonde de l'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence qui se découvre progressivement elle-même. Je ne crois pas qu'on peut dire qu'on est métaphysicien, on le devient progressivement. Et pour les Grecs, on ne l'était qu'à partir de 45 ans. Alors vous voyez, il y a encore de l'avenir. Alors, parce que c'était qu'à partir, on devenait très vite. Le point de vue mathématique, c'était très très rapide. Mais la métaphysique, ça met du temps. Un cycle éthique. Et on comprend ce que ça veut dire, parce que c'est notre conditionnement humain qui d'habitude est toujours lié à nos sensations, qui progressivement doit s'amenuiser sans supprimer les sensations, mais laisser la place primordiale à l'intelligence. Et quand un gosse touche les objets, je ne crois pas qu'il pense beaucoup. Quand nous, après de nombreuses réflexions, nous touchons les réalités, l'intelligence est beaucoup plus présente. Autrement dit, il y a une espèce de conquête progressive de l'intelligence sur nos sensations, sur notre corps. Notre corps se spiritualise progressivement. Quand nous disons que notre âme informe notre corps, c'est très vrai que ceci se fait immédiatement. Dès que l'âme est créée dans le corps, immédiatement l'âme informe le corps. Mais au point de vue de la vie, de connaissance et d'amour, sûrement que ça se fait progressivement. Il y a comme une espèce de conquête, on peut dire. C'est pour ça qu'on ne devient que progressivement à ce niveau de la connaissance métaphysique. C'est comme si vous voulez, l'intelligence reprenait vie. C'est cet effort-là qu'on doit faire au point de vue métaphysique. Redécouvrir la vitalité la plus profonde de l'intelligence. Redécouvrir l'intelligence en tant qu'elle doit se servir de notre imagination, de nos sensations, pour atteindre ce qui est, pour atteindre le réel dans ce qu'il a de plus profond, dans sa réalité, comme nous dirons, substantielle, c'est-à-dire dans ce qu'il a de plus profond. C'est pour ça que, de fait, quand on regarde l'histoire de la pensée occidentale, la philosophie grecque, c'est bien le berceau. On sait de plus en plus que la philosophie grecque a été liée à toute la philosophie de l'Inde. Il y a eu des interférences entre la philosophie de l'Inde et même avec toute la révélation sémite. De plus en plus, on voit combien la Grèce et Athènes spécialement a été le carrefour. Les Grecs sont naturellement curieux, hein. C'est sûr, ils ont ce tempérament de curiosité, de vouloir aller le plus loin possible dans l'ordre de la connaissance. Ça a toujours été un peu comme ça, peut-être moins maintenant, tu vois, parce qu'ils sont moins grecs qu'ils l'étaient avant. Mais ils avaient ce sentiment de vouloir aller le plus loin possible, si vous voulez, dans le point de vue de la connaissance. Et alors, on voit que la métaphysique, la connaissance de l'être, est apparue en premier lieu, un poème de Parménide, par une espèce de révélation. C'est ça qui est très curieux. La philosophie ne s'est pas du tout construite en opposition vis-à-vis de la révélation et vis-à-vis des traditions religieuses. Elle est née au contraire à l'intérieur de ces traditions religieuses. Au point de départ, il n'y a pas d'opposition entre ce que représente la réflexion philosophique et la tradition religieuse. Mais il y a tout de suite une diversité en ce qu'aujourd'hui on nomme le moutos, le mythe, Et puis le logos, au point de vue de l'intelligence. Et c'est vrai, je crois, qu'il faut considérer que le point de vue de la philosophie est né comme, à l'intérieur des traditions religieuses, comme une recherche d'analyse pour que l'intelligence puisse découvrir progressivement ce qu'est la réalité. Les Grecs sont réalistes, tous. Toutes les philosophies grecques sont réalistes, sauf celles qui si vous voulez, très peu, qui sont sceptiques. Le scepticisme, évidemment, des sophistes. Mais au fond, normalement, ils sont réalistes. Et alors, progressivement, leur philosophie ne regarde plus seulement le monde, ne regarde plus seulement l'homme, mais regarde ce qu'il y a de commun entre l'homme et le monde. Ce qu'il y a de commun, c'est justement de découvrir la profondeur de l'homme et du monde en découvrant cette note commune, ce qui est. Alors, cette métaphysique a commencé d'abord par une révélation pour bien nous faire comprendre que c'était quelque chose qui n'était pas la connaissance immédiate, que ça présupposait comme un approfondissement de notre intelligence. Alors, pour Parménide, c'est la déesse qui donne la connaissance de l'être. Pour Platon, c'est la réminiscence. Et pour Aristote, c'est l'expérience. Et ça, ça me semble très important de voir que ce n'est que progressivement qu'on est arrivé à voir que l'intelligence, par elle-même, par l'expérience, pouvait arriver à cette profondeur. À cette profondeur de regarder non pas seulement les apparences, ce qui est le phénomène, ce qu'on peut décrire, mais que l'intelligence est capable d'atteindre dans la réalité ce qu'il y a de plus profond. Oui, au point de départ, c'est la révélation pour nous faire comprendre que justement, l'homme, par lui-même, il est distrait. C'est vrai, l'homme est le lieu de la distraction. Toujours distrait, et c'est l'expression très très belle de Parménide, l'homme aux doubles têtes. Non. Les girouettes, si vous voulez. On montre les girouettes au niveau politique, hein. On pourrait le faire au point de vue philosophique, au point de vue de la connaissance. L'homme est une girouette. Un chant d'oiseau, ah tiens, autre chose, tiens, on est comme ça, on n'en fait aucune attention, ça, parce qu'on vit dans la sensation. Alors, quand on vit dans les sensations, évidemment, on est girouette. Alors, on comprend, comment on dit, pour aller plus loin, pour découvrir ce qu'est la réalité, découvrir l'être des choses, ah, il faut le secours de la déesse. Il faut que la déesse nous prenne la main, c'est ce qui se passe dans le poème de Parménide, nous prenne la main pour montrer une alliance avec les dieux, et puis, à ce moment-là, la déesse nous révèle l'être. Alors, comment Parménide l'a-t-il vécu? Ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous montre qu'il y a comme une alliance avec les dieux pour découvrir l'être. Ça, c'est très beau. Ça, c'est très vrai. C'est redécouvrir l'origine de l'esprit. Alors, l'esprit a quelque chose de divin. L'esprit est au-delà du monde physique. Le nous, l'intelligence, est au-delà du monde physique. Donc, il s'agit de découvrir au-delà des apparences ce qu'il y a de plus profond, de ce qu'il y a de plus radical dans la réalité. Et par là, devenir capable de remonter jusqu'à Dieu. C'est bien cette intuition profonde, il y a révélation, il y a comme une intuition, cette intuition profonde de Parménide, que c'est par l'être que nous nous divinisons. C'est par l'être que nous découvrons ce qu'il y a de plus profond en nous, au point de vue naturel, hein, comprenez bien. Pour nous, avec le point de vue de la foi, le point de vue de la révélation divine, alors on comprendra qu'il y a deux chemins vers Dieu. Un chemin qui est celui de notre intelligence et de notre cœur, et puis un chemin divin, surnaturel. Mais le surnaturel ne supprime pas la nature. De sorte que ce chemin que les Grecs ont découvert, Il n'y a pas que les Grecs qui l'ont découvert. Dans l'Inde, on découvre exactement le même chemin. Et donc les deux grandes traditions, si vous voulez, profondes au point de vue de la pensée, là ont quelque chose de commun. Olivier Lacombe, qui a étudié beaucoup la philosophie de l'Inde, montre qu'au fond, dans l'Inde, on retrouve quelque chose de très analogue aux deux aspects, Platon et Aristote. Pour bien nous faire comprendre, c'est comme, si vous voulez, des constantes de l'homme. Il y a des gens qui sont plus orientés vers Platon, des gens qui sont plus orientés vers Aristote. On verra ça. Mais c'est intéressant de voir que c'est quelque chose de profondément humain, cela. La complexité de l'être humain. Ici, ce que je veux souligner, c'est qu'au point de départ, cette connaissance de l'être, qui caractérise ce qu'on va appeler la métaphysique, la philosophie première, cette connaissance de l'être apparaît d'abord comme une révélation. C'est donc quelque chose que l'homme ne peut pas découvrir tout seul. C'est quelque chose de trop profond. L'homme ne peut pas le découvrir tout seul. L'homme reste par lui-même dans les choses extérieures. Alors il faut une révélation, il faut un choc de la déesse qui vous prend la main, vous montre l'alliance avec elle et qui vous révèle ce qui est. Puis Platon montrera que cette révélation, elle se fait par la réminiscence. Donc ce n'est pas une révélation au sens propre. C'est un droit de l'homme. Qui dit révélation dit un don gratuit. Qui dit réminiscence dit un droit de l'homme. L'homme, par lui-même, est capable de remonter jusqu'à Dieu. L'homme, par lui-même, est capable de découvrir ce qu'il y a de plus profond en lui, son être. Et par là, être apparenté à Dieu. Mais Platon reconnaît que l'état dans lequel nous sommes ici fait que la chose est très difficile. On est dans la caverne, à cause de notre corps, à cause de nos sens. Alors il faut remonter à la source, parce que nous avions un état antérieur qui était justement l'état dans lequel notre âme était séparée de notre corps. Alors évidemment, ça c'est un mythe. Hein. Votre âme n'a pas existé avant votre corps. Hein. Sauf si de temps en temps vous vous mettez à réfléchir très très fort et que vous avez l'impression d'avoir des ancêtres qui étaient grecs et qui parlaient grec. Et de temps en temps vous avez une espèce d'impression d'avoir vécu une vie antérieure. Il y a des gens qui ont ces impressions-là. Je vous ai déjà dit, une fois un chauffeur de taxi m'a dit qu'il croyait à la réminiscence, il croyait à la métapsychose. Et que lui, à certains moments, il se voyait jouant à Athènes sur un théâtre. Il disait ça très très sérieusement. Et comme il voyait que j'étais prêtre, il se doutait que j'allais comprendre. Il dit, oh, très bien, alors, je lui dis alors, vous parlez grec, nous allons parler grec, puisque vous avez vécu ça. Il dit, ah oui, mais c'est ça en lui, c'est que, vous voyez, j'ai perdu la langue. Les gestes, non, mais la langue. C'était très très joli, parce que c'était la réflexion que lui-même avait fait, le discernement. Il avait vraiment vécu à Athènes, le théâtre, et il voyait, mais il ne pouvait plus se rappeler le grec. Le grec était perdu. Alors à ce moment-là, je dis, il y a peut-être un autre phénomène, c'est peut-être pas uniquement une métapsychose, c'est peut-être tout simplement une espèce de nostalgie très très profonde que vous avez en vous. Je vais parler de la nostalgie du paradis terrestre, n'est-ce pas ? Pour essayer de remonter, faire revivre en lui autre chose, pour par là remonter dans le problème de la foi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose en nous comme ça. Nous avons des nostalgies de plusieurs vies, parce que notre vie n'est pas suffisante, étant donné que notre âme est capable d'infini. Et à cause de notre vie, à cause de notre corps, nous sommes nés dans tel lieu. Nous aurions bien mieux aimé de naître en Grèce. Nous sommes nés à tel moment. Nous aurions bien mieux aimé de naître au Moyen-Âge ou de naître avant le Christ. Pour avoir une... Alors, il y a ces nostalgies. Au fond, toutes ces nostalgies, nous les portons en nous. Et ces nostalgies, c'est des nostalgies affectives, imaginatives. Ça ne correspond pas à la réalité. Mais c'est vrai, vous voyez, et Platon, là, nous fait comprendre quelque chose de très profond. ce que Parménide n'avait pas saisi. Il nous fait comprendre qu'il y a en nous, dans notre intelligence, dans notre nous, dans notre âme spirituelle, il y a une capacité d'être immédiatement en contact avec la réalité dans ce qu'elle est le plus profond. Mais à cause de notre conditionnement humain, à cause de notre corps, nous ne pouvons pas. Et alors, Aristote vient en troisième lieu, et on pourrait considérer les trois âges de la vie grecque là-dessus, les trois âges de la métaphysique. L'enfant qui reçoit tout par mode de révélation. Un enfant, il a une capacité extraordinaire de tout recevoir par mode de révélation. C'est pour ça qu'il faut revenir comme des tout petits enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est propre de l'enfant de recevoir tout gratuitement. C'est vrai, l'enfant, ça lui est égal de recevoir gratuitement. Parce qu'il a ça que par nature. Or, la révélation, c'est recevoir gratuitement. C'est accepter que ça vous est donné gratuitement. Beau jour, la déesse vient et vous fait comprendre l'être. C'est merveilleux, vous voyez. Si la déesse venait et vous faisait entrer dans qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être est là. Il suffit de regarder, il suffit de recevoir. Ça, c'est l'enfant. Et alors, l'adolescent, vous voyez, qui il dit, ah, non, j'ai le droit. On réclame le droit, j'ai le droit, c'est inscrit en moi, ça c'est Platon. Et puis alors, l'âge mûr, Aristote, pas la peine de regarder les nostalgies. Regardez le réel. Le réel est plus que toutes les nostalgies. Et c'est ce réel que vous devez atteindre. Et si vous regardez le réel, dans toutes vos expériences, vous êtes capable d'atteindre la profondeur de la réalité. Pas la peine d'avoir des nostalgies, c'est immédiat, c'est le présent. Et c'est très beau, le futur, le passé, le présent, vous voyez, comme la conquête profonde, parce que la révélation c'est toujours le futur, hein, c'est par mode prophétique, et le prophète c'est l'homme du futur, les nostalgies c'est le passé, et Aristote c'est le présent. Là vous avez les trois modalités de cette manière-là, les trois modalités sous lesquelles vous voyez apparaître cette connaissance profonde, cette connaissance, cette découverte de ce qui est. Et Aristote dira, en prenant le terme de philosophie première, la philosophie première, c'est la science de ce qui est en tant qu'être. Non, je l'écris en grec, parce que ça, il faut le savoir. Il faut le savoir en grec. C'est la science du toi et homme. Je ne mets pas les accents. Les bons grecs mettent des accents. Non, mais ça, c'est pour les... C'est pas la peine, hein. Tourne et... Alors, vous traduisez la science de ce qui est en tant qu'être. Je crois que c'est comme ça qu'on doit traduire. Mot à mot, on dirait la science de ce qui est en tant que ce qui est. Vous voyez ? Mais comme il y a une formalisation, puisque en tant que formalise, il suffit de comprendre que ça formalise le « ce qui est ». Qu'est-ce que c'est que formaliser ce qui est ? Nous le disions hier. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et donc, c'est bien ce qui est en tant qu'être. Je crois que c'est la meilleure traduction que nous pouvons donner. La traduction à la manière de Heidegger, c'est « l'étant en tant qu'étant ». Vous voyez que ça ne va pas. Ça, c'est plus grec, ça. C'est heideggerien. C'est plus grec, parce que c'est justement le participe, le toon, c'est le participe. Mais le participe, c'est une forme grammaticale qui montre tout simplement ce que nous saisissons, le toon. L'infinitif, c'est le toena. Ça, c'est l'être. Saint Thomas, qui a un sens très très profond, l'Aristote, bien que... Il ne regarde pas Aristote en tant que philosophe, il regarde Aristote pour faire sa théologie. Saint Thomas dit que le toon doit se traduire quod est, c'est-à-dire ce qui est. Et je crois que c'est beaucoup plus juste, parce que l'étant, vous voyez, bloque un peu. On ne voit plus très bien ce que c'est que l'étant. L'étant. L'étant, ça veut dire les réalités qui nous sont données. Enfin, il faut savoir, il faut surtout comprendre que de fait, quand vous traduisez l'étang aujourd'hui, tout de suite ça a une saveur heideggerienne, alors vous vous mettez à penser à Heidegger, ça ne va plus. Je crois qu'il faut mieux traduire ce qui est en tant que ce qui est.
Alors, Aristote est le premier qui, de fait, nous montre que, par notre expérience, sans réminiscence, sans révélation, nous découvrons cette nouvelle science, et il l'appelle science épistémée, cette nouvelle science, c'est-à-dire cette nouvelle connaissance que nous sommes capables d'acquérir. C'est ça la science. La science, c'est ce que l'intelligence est capable d'acquérir. Et la science, c'est une connaissance parfaite. C'est une connaissance qui a sa certitude, c'est une connaissance qui atteint la vérité. C'est ça qu'on appelle science, hein, d'une façon générale. Évidemment, c'est très différent de ce que nous appelons nous science aujourd'hui, mais quand même, il y a toujours un lien. C'est pour ça que le même mot est resté. Quand le même mot est resté, ça prouve qu'il y a quand même un certain lien, même quand les choses sont très diverses. On saisit ce qui est en tant qu'être. Et pour Aristote, c'est la philosophie première, c'est-à-dire la philosophie ultime, qui, comme je vous le disais, est une philosophie qui est capable de rejoindre Dieu, ce que les traditions religieuses appellent Dieu, ce qui est capable de nous conduire à la contemplation. Et c'est pour ça qu'Aristote dira que cette philosophie première, elle est théologie, parce qu'elle est capable de nous conduire et de nous permettre de dire quelque chose de juste des dieux, et elle est capable de nous conduire à la contemplation, et donc à notre bonheur suprême, puisque le bonheur suprême de l'homme, c'est la contemplation. C'est de contempler l'être premier. Vous voyez qu'Aristote, en faisant cela, reprend et réassume Platon et Parménide. Il montre que cette connaissance de ce qui est, elle est théologique, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre à la théologie, elle s'achève dans la théologie, et elle permet à l'homme d'atteindre ce pourquoi il est fait, elle est sagesse. Elle est la contemplation. Cette philosophie première, comme Aristote la découvre, et qu'Aristote sait qu'il en est, lui, l'inventeur. Il a pleinement conscience qu'il est le premier à donner un statut scientifique à cette découverte de ce qui est, à partir de l'expérience. Donc, sans révélation, et sans réminiscence, c'est le présent. La philosophie première nous fait vivre du présent. Parce que l'intelligence ne peut rejoindre l'éternité que par le présent. L'intelligence ne rejoint pas l'éternité par le point de vue du futur et par le point de vue du passé. Quand vous êtes dans le passé, vous êtes dans les nostalgies, vous n'êtes pas dans l'éternité. Quand vous êtes dans le futur, au point de vue philosophique, vous êtes dans des rêves, dans des promesses, vous ne savez pas si ça va se réaliser. Demain, vous voyez, toutes les idéologies, c'est demain. Demain, il n'y aura plus de lutte des classes. Demain, il y aura l'unité absolue. Demain, vous aurez le bonheur. Alors, on est dans des promesses. On n'est pas dans le réel. Et on ne peut pas rejoindre l'éternité. Le philosophe sait que seul par le présent, je rejoins l'éternité. Or, il faut essayer de découvrir la brèche par laquelle je peux rejoindre le divin. S'il y a en moi quelque chose de divin, il faut à tout prix découvrir la brèche par laquelle je peux découvrir ce divin. Je ne peux découvrir le divin que par une connaissance qui me fait toucher la réalité actuelle dans ce qu'elle a de plus profond. Et donc, seul le présent me permet de rejoindre l'éternel. Ça, c'est très beau comme saisie, vous voyez. C'est pour ça que saint Thomas a tellement aimé Aristote. Parce qu'Aristote lui a montré la voie par laquelle l'intelligence pouvait remonter par elle-même jusqu'à Dieu. Tandis que Platon ne donne pas cela. C'est les nostalgies. Vous voyez, alors on pleure sur les murs de Jérusalem. On pleure sur le paradis perdu. Dans le temps, nous étions dans le paradis. Alors dans le temps, vous voyez, on a des nostalgies.
Et ces nostalgies ne nous avancent pas beaucoup, puisque c'est perdu. Le paradis terrestre, il est perdu. Alors, parce qu'il est perdu, c'est pas en le regardant que je vais le retrouver. Il est perdu, il faut donc découvrir quelque chose par où, très humblement, je peux remonter jusqu'au divin. Vous voyez, la métaphysique, ou la philosophie première, si vous voulez, a tout de suite été liée à la théologie. C'est ça qui est très important à voir. C'est que vraiment, et c'est la phrase qu'Aristote dit avec beaucoup de force, il dit, on fait de la philosophie première pour découvrir ce que c'est que le nous et Dieu. Donc, disons, ce que c'est que l'esprit et Dieu. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie première. C'est découvrir ce qu'il y a de plus radical dans la réalité pour remonter jusqu'à Dieu. Et découvrir par là notre bonheur. Alors, ce mot philosophie première, c'est pour ça que je crois qu'on devrait reprendre philosophie première. De plus en plus, je crois qu'il faut reprendre le mot philosophie première. J'aime beaucoup mieux ça. Le mot métaphysique, je vous l'ai dit hier, c'est un mot qui vient des bibliothécaires. Donc c'est assez matériel. C'est de l'extérieur. C'est de l'extérieur, c'est pas de l'intérieur. Mais c'est celui qui invente une science qui peut lui donner le nom de l'intérieur. Donner un nom, c'est exprimer le contenu de cette science. Quand on dit métaphysique, c'est-à-dire ce qui vient après la physique, hein, méta. Ce qui vient après la métaphysique, ce qui vient après la physique. Ce qui est au-delà de la physique. Alors ça veut dire tout simplement que, de fait, après toutes les études de la philosophie de la nature, eh bien, il y a quelque chose d'autre. On ne peut pas s'arrêter à la philosophie première, c'est très juste. Le mot métaphysique n'est pas faux, hein. C'est pas faux du tout, c'est très juste. Mais ça ne dit rien. C'est méta, après. Et on ne dit pas ce que c'est. Tandis que philosophie première dit ce que c'est. On montre que dans la philosophie, c'est la recherche la plus radicale et la plus fondamentale. Puis alors ensuite,